Alors, on continue ce qu'on avait débuté la semaine dernière. On continue notre étude sur Lévitique. On était rendu au point 3, ceux qui ont les feuilles, on était rendu à la page 3. Donc, on était rendu, on sait que le Lévitique, c'est un livre, le thème de Lévitique, c'est la sanctification. Donc, à quelque part, tout a un lien avec la sanctification. Alors, on a le troisième point qui est à la consécration du peuple, qui correspond au chapitre 11 à 15 à l'intérieur du livre. Donc, l'Éternel, dans cette section-là, donne des lois pour la pureté du peuple. Des lois concernant l'alimentation. Donc, il leur dit qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est impur, dans le chapitre 11. Des lois concernant les femmes enceintes et l'enfantement, dans le chapitre 12. Les lois concernant la lèpre, dans les chapitres 13 et 14, et les lois sur les impuretés de l'homme et de la femme dans le chapitre 15. Alors, quelque part, c'est toutes des affaires qui ont un lien avec la consécration du peuple comme tel. Donc, on va regarder un peu plus tard, lire, quand on va arriver dans la section à la fin, là, qui est un bref résumé, chapitre par chapitre. On va voir un petit peu plus de détails là-dessus, mais là, au moins, ça donne l'idée générale. On était rendu au quatrième point, c'est le jour des expiations. Alors, dans le livre de Lévitique, le jour des expiations, c'est très important. Alors, le Seigneur donnait, dans les chapitres 16 et 17, des lois concernant le jour des expiations. Il y avait des règles à observer, il y avait un endroit où ça devait se faire, et il y avait des règles concernant l'usage du sang. On va regarder un petit peu plus loin aussi les commentaires à l'intérieur de la section à la fin, là, pour revenir un petit peu avec plus de détails sur le jour des expiations. On était rendu au cinquième point, les lois de la sanctification du peuple. Ça correspond au chapitre 18 à 20. Donc, cette partie-là du livre de Lévitique traite des prohibitions sexuelles. Donc, à quelque part, souvent, c'est dans Lévitique qu'on va trouver où le Seigneur se prononce très catégoriquement sur l'homosexualité ou d'autres choses de nature sexuelle. Et après ça, il y a des lois d'ordre social et des sanctions aussi contre les contrevenants. Donc, les prohibitions sexuelles sont mentionnées dans le chapitre 18, versets 1 à 30, et c'est les unions illicites, l'inceste, autrement dit, l'inceste, c'est d'avoir des relations sexuelles avec tes enfants ou ta parenté. Les désirs illicites, l'homosexualité et la bestialité. Alors, toutes ces perversions-là sont décrites comme de quoi que c'est Dieu défend son peuple de pratiquer ces choses-là. Et dans le chapitre 19, il y a des lois d'ordre social qu'on appelle les ordonnances. Alors, quelles sont ces lois-là? C'est l'idolâtrie qui est interdite, les sacrifices humains qui est interdit. Pourquoi Dieu leur défendait les sacrifices humains déjà dès cette époque-là? C'est parce que dans le milieu dans lequel ils vivaient, les pays qui environnaient, eux le pratiquaient. Alors le Seigneur, il connaît comment ça marche, les êtres humains. On est porté à imiter et le mal est encore présent, même chez les personnes qui sont régénérées. Alors il y a un danger, pas pour rien que Dieu défend ça à son peuple. Il me semble qu'on se rapportait à dire, bon, c'est ça, comme intuitivement, mais quand quelqu'un lit l'Ancien Testament, il se rend compte que, dans le fond, le peuple de Dieu est souvent tombé dans des péchés extrêmement graves. Donc, il y avait les sacrifices humains qui étaient interdits, il y avait toutes les règles concernant la vengeance, la haine, la nécessité de reprendre le pécheur. Oui, c'était dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau aussi. S'il y avait des manquements à cette époque-là, imaginez-vous aujourd'hui. Pourquoi bien souvent les chrétiens n'ont pas de problème au 20e ou au 21e siècle? Parce qu'ils ne reprennent pas les pécheurs. Si tu ne reprends pas ceux qui pêchent autour de toi à tour de bras, en sacrant, en toutes les affaires, c'est sûr que tu n'auras pas de trouble. Mais à toi le faire. Là, tu vas voir que ça change. Alors, il y avait les péchés concernant la haine, la nécessité de reprendre les pécheurs, les fiançailles, le repos de la terre. Ça, c'est intéressant parce que si vous avez déjà regardé les lois sociales avec les Amish, qui viennent, il y en a dans l'Ouest canadien, il y en a en Pennsylvanie. Ces gens-là respectent les lois de l'Ancien Testament à la lettre. Aux 7 ans, ils font pas de culture. Et ces gens-là, leur agriculture est d'une richesse. Ils sont riches, les Amish et toutes les d'autres qui prennent l'Ancien Testament, qui continuent d'appliquer les règles de l'Ancien Testament. C'est très intéressant de penser à ça, hein, parce qu'aujourd'hui, on pense qu'on est rendu loin dans l'agronomie, qu'on connaît mieux les lois de la terre que le Seigneur lui-même. Le Seigneur a dit, une fois aux 7 ans, laisse ta terre tranquille, laisse-la se reposer. Puis ceux qui le font, bien, ils sont bénis, et c'est parce que le Seigneur, il sait que la terre a besoin d'un repos. Donc, le repos de la terre, et aussi, il défendait à son peuple la prédiction de l'avenir. S'il y a une affaire qui est répandue de nos jours, c'est bien ça. Alors, souvent, beaucoup de problèmes qu'on vit dans les églises aujourd'hui vont aller trouver leur prohibition dans le livre de la Lévitique concernant les lois sexuelles, concernant les affaires de magie et tout ça. Là. Et donc, il y avait les incisions aussi dans la chair, les tatouages, la prostitution, les sabbats, la magie, les évocateurs d'esprit, les vieillards, le respect que tu dois aux vieillards, les étrangers, l'honnêteté des poids et mesures. Quand tu regardes ça, là, le Seigneur est en train de donner des lois pour la sanctification du peuple. Chapitre 18, 19 et 20, c'est toutes des lois que si le peuple de Dieu aurait obéi, il aurait été béni, mais aussi il y avait, quand le peuple obéissait pas, il y avait des problèmes. Il y avait des sanctions aussi contre les contrevenants, dans le chapitre 20, verset 1 à 27. Et ces contrevenants, les sanctions étaient que l'Éternel tournera sa face contre eux et leur famille. Tu sais, des fois, on lit ça, puis on s'imagine pas la gravité quand Dieu tourne sa face contre une personne. Les gens, ils se rendaient peut-être pas compte de l'impact que c'était pour avoir sur leur vie, mais c'était un impact extraordinaire. Et qu'ils seront, même il allait plus loin que ça, ils seraient retranchés du milieu du peuple. Et il y avait aussi, dans certains cas, c'était la punition de mort, et qu'ils porteront la peine de leur péché. Je me souviens d'avoir déjà lu une étude, quelque part, dans un livre que j'avais lu, la quantité de choses qui étaient punies de mort dans l'Ancien Testament. Si, aujourd'hui, on appliquait les lois de l'Ancien Testament... Non, mais c'est rien pour dire, ça démontre une chose, c'est que pour Dieu, des choses que pour nous aujourd'hui, c'est pas des choses aussi graves que ça, mais à l'époque, c'était, tu manquais le sabbat, là. Tu sais, je sais pas si vous vous souvenez, mais le passage où il y avait quelqu'un qui avait ramassé du bois le jour du sabbat, ils ont consulté le Seigneur, la mort! Imaginez-vous aujourd'hui, ça serait la mort pour quelqu'un qui manque son culte du dimanche. Quelque part, je pense que ça vient nous parler que Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, mais Dieu est sévère aussi des fois. Alors, on a le sixième point, les lois de la sanctification des sacrificateurs. Donc, à quelque part, les sacrificateurs, eux, vu qu'ils étaient, ils occupaient des rôles de leadership, il y avait des lois aussi concernant leur sanctification. Alors, ces lois-là étaient au nombre de 5. La première, c'était les pratiques qui devait être prohibé par les sacrificateurs. La deuxième, c'est les sacrificateurs étaient disqualifiés pour le service s'ils faisaient certaines choses, s'ils pratiquaient certains péchés, étaient disqualifiés. Troisièmement, les choses qui étaient prohibées par les sacrificateurs, dans le chapitre 22. Quatrièmement, les sacrifices qui étaient prohibés par les sacrificateurs. Et cinquièmement, le but des lois de la sacrificature. Alors, comme je vous ai dit, pour les autres, on passe rapidement, très rapidement, parce que dans l'autre section qu'on va étudier, on va toutes les reprendre, et là, on va plus développer un petit peu chacune de ces affaires-là. Chapitre 23 et 24, qu'on appelle les lois de l'adoration. Vous êtes sûrement familier avec toutes les fêtes qu'on voit dans le Nouveau Testament. Passover, ça, c'est la fête de la Pâque. Après ça, on avait la fête Unleavened Bread, c'est la fête des pains sans levain. Après ça, on avait la fête First Fruit, la fête des premiers fruits. Ensuite, on a la fête des semaines, On a la Pentecôte. La Pentecôte, c'était 50 jours après le départ de Christ, l'ascension de Christ. Et on a la fête des tabernacles, la fête des trompettes, la fête des expiations, la fête des tabernacles. Ça, là, on manque souvent le bateau là-dessus. Parce que c'est des fêtes qui représentaient un stade ou un autre de l'œuvre de Christ. Quand on parle, par exemple, du Passover, c'est la fête de la Pâque. C'est à quoi la fête de la Pâque? Dieu avait dit, prenez du sang d'un animal et mettez-le sur le poteau et les linteaux. Et moi, il disait que tous ceux qui n'avaient pas étaient pour souffrir la mort en Égypte. Alors, ça représente l'œuvre de Jésus-Christ, que si tu as le sang de Jésus-Christ... Et après ça, on avait l'autre, là, la fête des pains sans levain, la fête des premiers fruits, la fête de... Toutes ces fêtes-là sont des très importantes pour... Plus on va les comprendre, mieux on va faire des relations avec l'œuvre de Jésus-Christ. Là, on va rentrer un petit peu plus en détail quand on va rentrer dans l'autre section. Donc, la première fête qui est mentionnée dans Lévitique 23, c'est le sabbat. Les quatre premières fêtes ont été accomplies à la première venue de Christ. Alors, toutes ces fêtes-là, quand on lit dans le livre de Lévitique, ont un lien avec leur accomplissement par Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Alors, on dit que les quatre premières fêtes qui sont mentionnées ont été accomplies à la première venue de Jésus-Christ. La Pâque, qui est Christ, qui est l'agneau de Dieu sacrifié à la croix. Les pains sans levain, c'est Christ, ce qu'on appelle son impeccabilité. Impeccabilité, ça veut simplement dire que Christ n'a pas péché, qu'il n'était pas possible pour lui de pécher parce qu'il avait la nature divine qui habitait sa nature humaine. Donc, les pains sans levain, le levain dans les Écritures a toujours représenté le mal. Pourquoi Christ était un pain sans levain? Parce qu'il n'avait pas de mal en lui. Alors, quelque part, c'est de voir ces aspects-là, de ces fêtes-là, qui ont un rapport directement avec... Et si vous regardez attentivement, le tableau est en anglais, là, mais il y a des dates là-dedans. C'est très important de faire les liens entre les dates et l'œuvre de Christ et quand ça s'est passé. Comme là, on est en train de dire que les quatre premières fêtes ont été accomplies à la première venue. Donc, la Pâque, les pains sans levain, les premiers fruits. Qu'est-ce que ça veut dire, les premiers fruits? Quel est le premier qui a connu la résurrection? Le premier fruit, c'était Jésus-Christ. Donc, la fête qu'on appelle First Fruit, ou la fête des premiers fruits, ça représentait Christ qui a été le premier à avoir la résurrection. Et la quatrième, c'était le Pentecôte. Qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? 50 jours après que Christ a été enlevé au ciel, là, ils ont eu la descente du Saint-Esprit sur l'ensemble des chrétiens de l'époque. Donc, après 50 jours, pourquoi on l'appelait Pentecôte? Parce que Pente, ça veut dire il y a 50, le mot 50 dedans. À quelque part, quand vous regardez l'ensemble de ces choses-là, puis vous regardez dans la deuxième partie de ce qu'on appelle les tabernacles, c'est plus dans la deuxième venue de Jésus-Christ que les fêtes vont arriver. Mais c'est très intéressant de faire le lien entre la première venue et la deuxième venue, et que ça représente des... Donc, les trois dernières fêtes seront accomplies à la deuxième venue de Christ. Donc, la fête des trompettes, qu'est-ce que ça représente? L'appel à la repentance, qui sont les sept trompettes de l'Apocalypse. Le jour des expiations, c'est le jour du jugement, et la fête des tabernacles, c'est les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. On va regarder ça plus en détail quand on va lire les commentaires, mais c'est intéressant que plus qu'on fait le lien et qu'on lit ça, puis quand on fait le lien, ça devient intéressant, beaucoup. Donc, les lois dans le pays de Canaan, chapitres 25 et 26, il y avait des lois qu'il fallait qu'ils observent dans... Alors, il y a deux sabbats. Et deux sabbats périodiques. Il y avait ce qu'on appelle l'année sabbatique. On utilise encore cette expression-là de nos jours, des fois. Il y a un professeur qui dit, je vais prendre une année sabbatique. Une année sabbatique, ça veut dire que tu prends un an sans travailler, parce que tu n'as travaillé sept en avant. C'est comme un sabbat du travail. Donc, l'année sabbatique, c'était chaque 7 ans. Et en gros, c'était le repos de la terre, le repos du travail manuel et le repos des dettes. La sagesse de Dieu, là, quand on se met à examiner ça, puis qu'on voit, Dieu permettait que les Juifs, entre eux, se paient de l'argent. Et comme de raison, il y avait toujours des plus wise que d'autres, puis des plus mal pris que d'autres, qui finissaient par avoir des dettes. Aux 7 ans, le Seigneur disait, les dettes sont effacées. Quelle sagesse! Si ça fonctionnerait encore comme ça, là, ça serait une sagesse. Dieu est tellement dans son intelligence, il voit les difficultés des hommes, leurs péchés, et il trouve des façons d'y régler. Et le peuple de Dieu, quand il obéissait, ceux qui étaient endettés, ils n'avaient plus de dettes, ceux qui avaient prêté, Dieu dit, si tu prêtes, tu vas être béni. Quand quelqu'un croyant, ici, il prêtait, il ne perdait pas, là. Dieu dit qu'il était pour y trouver une façon de lui redonner son bien. Et tu avais l'autre qui était le jubilé. Ça aussi, on continue d'utiliser cette expression-là. Aujourd'hui, des fois, on entend l'Église catholique parler du jubilé. Ça, c'était aux 50 ans. C'était 7 ans. À tous les 7 ans, il y avait ce qu'on appelait l'année sabbatique. Mais quand tu avais eu 7 années, 7 fois ça, là, faisait 49 ans, aux 50e année, c'est ça qu'appelait ça le jubilé, aux 50 ans, il se produisait quelque chose. Le jubilé arrivait après un cycle de 7 années sabbatiques, donc c'était aux 50 ans. Le jubilé ajoutait 2 obligations tous les 50 ans. La libération des esclaves. Imaginez-vous l'intelligence. Il y avait des gens qui, à cause qu'ils étaient mal pris, finissaient par se vendre eux-mêmes à des maîtres. « Je vais te servir, prête-moi de l'argent, puis je vais te servir. » Puis il y avait des gens qui finissaient par être des esclaves de leur propre peuple. Le Seigneur, il dit aux 50 ans, là, on oublie ça. Ceux qui sont... moi, je vois la bonté du Seigneur là-dedans. C'est tout, si le peuple de Dieu avait obéi dans l'Ancien Testament, là, il y avait tout ce qu'il faut. Donc, il y avait la libération de tous les esclaves, sans exception. Et il y avait le retour de la terre et de la maison familiale de son premier propriétaire. Donc, le Seigneur avait donné des terrains, des coins de terre à chacun. Chaque famille avait eu sa part. Mais à cause de l'endettement et de la misère que les êtres humains se donnent, ben je vais te vendre ma terre, puis donne-moi de l'argent, puis aide-moi, puis... Et ce qui faisait en sorte, c'est qu'après un certain temps, il y en avait qui étaient bien endettés, puis ils perdaient leur terre que Dieu leur a donnée. Dieu voulait que tout le monde garde leur terre pour tout le temps. C'est sûr qu'avec le temps, si Dieu n'avait pas permis le jubilé, autrement dit, ça l'aurait fait comme aujourd'hui. La richesse se serait concentrée dans les mains de quelques hommes et tout le reste aurait crevé. Alors, c'était la sagesse du Seigneur de faire le sabbat de cette façon-là. Tu avais le sabbat, l'année sabbatique et le jubilé. Le but de ces 2 sabbats périodiques était d'assurer la reconnaissance de la propriété divine du pays. La raison pourquoi Dieu leur donnait ça, c'est qu'il voulait que le peuple reconnaisse que le pays ne t'appartient pas. C'est moi qui te l'ai donné, puis ça m'appartient à moi. Puis c'est moi qui ai le droit, au bout de 50 ans, de dire « redonner à tout le monde ce que je leur avais donné ». Au début. Quelle sagesse! Lévitique 25, verset 23, ça dit « Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. » La mesure du repos de la terre tous les 7 ans est reconnue aujourd'hui en agriculture. Informez-vous sur toutes les sociétés qui ont pratiqué ça. Vous allez voir qu'ils sont tous riches à craquer. Moi, je me souviens, quand j'étais allé à l'école biblique, mon professeur, il avait déjà vécu en Pennsylvanie. Puis, il connaissait le milieu des Amish. Là, puis, il dit, ces gens-là, ils vivent simplement, mais sont comme communauté, là. Ils nagent dans la prospérité. Il dit, quand un Amish, là, décide d'acheter quelque chose, puis disons, ça vaut 3 millions, la caisse populaire, c'est qui veut acheter ça? Les amis. Pas de problème. Ils savent, ils ont de l'argent, mais c'est pas des gens attachés à l'argent, mais à cause du fait qu'ils obéissent à Dieu, ils sont bénis. Donc, La deuxième point qu'on veut regarder, c'est les résultats de l'obéissance et de la désobéissance en Canaan, ce qui est le chapitre 26. Donc, il y avait des... Quand Dieu disait des choses, il les invitait à l'obéissance en leur disant, voici ce que vous allez avoir si vous obéissez, et en même temps, voici ce que vous allez avoir si vous désobéissez. Les bénédictions. Alors, il y avait des conditions pour les obtenir. Il fallait pas qu'il y ait d'idolâtrie. Il fallait que tu observes les sabbats. Il fallait que tu aies de la révérence pour le sanctuaire. Il fallait que tu observes les lois divines et que tu gardes des commandements. Et la nature des bénédictions, le Seigneur les précisait. Il leur disait pas « Je vais vous bénir » sans leur dire qu'est-ce qui était pour leur donner. Les pluies en leur saison. Quand tu es un cultivateur, là, tu travailles dans l'agriculture, puis que le Seigneur te donne le soleil, puis qu'il te donne les choses que tu as besoin pour faire grandir tes affaires, c'est une énorme bénédiction. Donc, les pluies en leur saison, la terre qui donne ses fruits. Autrement dit, le Seigneur aussi, quand tu regardes dans l'Ancien Testament, il leur disait que des fois, il permettrait que le sol devienne comme de l'airain. Ça ne produit plus. Pourquoi ça ne produit plus? C'est un hasard. C'est Dieu qui permettait, pour punir son peuple, qui était tombé dans des péchés graves, qui permettait que ça ne pousse pas. Donc, les récoltes surabondantes, il leur disait tellement, il dit, vous n'aurez pas fini de ramasser la première moisson que déjà l'autre moisson va commencer à pousser. C'est-tu abondant, ça, ou c'est pas abondant? Après ça, la sécurité dans le pays. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand il leur disait, à toutes les telles années, il faut que le peuple monte à Jérusalem. Il était entouré de païens, violents. Il leur disait, tout le peuple, je veux que vous veniez à Jérusalem pour la fête. Puis il se passait rien du tout. Les gens n'attaquaient pas les propriétés, qui laissaient leurs propriétés, là. Dieu permettait, dit, écoutez ce que j'ai à vous dire, puis laissez faire le reste, je m'en occupe. Alors c'est ça, tu avais la paix dans le pays, l'absence des bêtes féroces. Ça aussi, c'est une autre affaire, le Seigneur permettait que des fois, le pays était envahi par les bêtes féroces. Là, si tu restes dans un coin, là, puis dans ton coin, il y a juste des loups, puis ou des lions, ou des... La poursuite des ennemis, la fécondité, autrement dit, la fécondité, pas juste de la femme qui va pouvoir avoir des enfants, mais les animaux. Et Dieu faisant la demeure, Dieu dit, si vous faites ça, je vais demeurer au milieu de vous. Quelle bénédiction! Après ça, il y avait des châtiments. Il dit, oh, si vous obéissez pas, voici ce qui va arriver. La détresse. La sécheresse, les animaux sauvages, la peste, la famine et l'exil. On en voit-tu ces choses-là dans le monde aujourd'hui? Pensez-vous que c'est des hasards que ces choses-là arrivent? C'est pas des hasards. Cependant, les promesses de l'Alliance sont maintenues en dépit de la désobéissance et de l'exil. Lévitique 26, versets 40 à 46. Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Péchés à cause desquels moi aussi je leur résisterai et je les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils paieront la dette de leurs iniquités. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham. Et je me souviendrai du pays. Le pays sera abandonné par eux, et il jouira de ses sabbats pendant qu'il restera dévasté loin d'eux. Ils paieront la dette de leurs iniquités parce qu'ils ont méprisé mes ordonnances et que leur âme a eu mes lois en horreur. Mais lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pourtant point, et je ne les aurai point en horreur jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel, leur Dieu. Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte aux yeux des nations pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. Tels sont les statuts, les ordonnances, les lois que l'Éternel établit entre lui et les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï par Moïse. Ensuite, tu avais au chapitre 27 la loi des vœux. Donc, ces lois-là, c'était au sujet de la consécration des personnes, des animaux et des objets qu'on donnait à Dieu. le passage précise ce qui est acceptable pour la consécration à Dieu et ce qui est exclu pour la consécration à Dieu et une conclusion. Et on va arrêter là pour aujourd'hui. Et là, à partir de la semaine prochaine, on va commencer à regarder ce qu'on a, le point 10 qui s'appelle le résumé des chapitres de Lévitique. Et là, on va voir que là, ça, quand tu te mets à regarder ça avec du recul, là, tu comprends que le livre de Lévitique, c'est un livre hyper intéressant. C'est juste qu'on ne le connaît pas puis qu'on a besoin de l'étudier un petit peu plus. Alors, on va terminer là-dessus.